Et c'est l'heure du journal présenté par Antoine Maret. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Donald Trump entend bien tirer parti du prochain Brexit. Au deuxième jour de sa visite au Royaume-Uni, le président américain promet à Theresa May un accord phénoménal, selon ses propres mots. Les 30 ans de la terrible répression de la place Tiananmen à Pékin, étouffée par le régime chinois, nous irons dans l'île rebelle de Taïwan, qui rend hommage aux milliers de victimes. Dans l'actualité française, les cheminots dans la rue cet après-midi, ils étaient plusieurs milliers à manifester à Paris contre la réforme ferroviaire. Ils montrent également du doigt une dégradation du climat social dans l'entreprise. Et puis pas de logo de Total en perspective sur les sites olympiques en 2024. Le groupe pétrolier français renonce à être l'un des sponsors des JO qui doivent se tenir à Paris. La maire Anne Hidalgo souhaite des Jeux olympiques neutres en carbone. Donald Trump, accueilli par une manifestation d'hostilité à Londres, un carnaval de la résistance composé de quelques milliers d'opposants qui ont défilé au cri de « Retourne chez toi ». Le président américain se trouve dans la capitale britannique jusqu'à demain. Il compte bien tirer son épingle du jeu du prochain Brexit en nouant un accord commercial avec le Royaume-Uni. Donald Trump qui s'est exprimé dans l'après-midi aux côtés de Theresa May. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Vous avez assisté à cette conférence de presse. Est-ce que l'on en sait un peu plus sur cet accord commercial annoncé ?
Ce qui est sûr, c'est que pour Donald Trump, ça ne fait aucun doute, le Brexit, c'est pour lui la meilleure opportunité qu'ont les Britanniques de se rapprocher des Américains. Écoutez.
Les États-Unis s'engagent à mettre en place un accord commercial phénoménal entre l'Amérique et le Royaume-Uni. Il y a des possibilités énormes. Je dirais peut-être 2 à 3 fois le volume de nos échanges actuels.
Soit un marché de 400 à 600 milliards d'euros par an, à condition de n'exclure aucun secteur. Les négociations porteront aussi, précise Donald Trump, sur l'ouverture du secteur public de la santé britannique au fonds d'investissement américain. Le président des États-Unis insiste aussi sur la coopération en matière de défense. Il donne pour finir son avis sur le futur remplaçant de Theresa May à Downing Street. Pourquoi pas Boris Johnson ou Jeremy Hunt, ancien et nouveau ministre des Affaires étrangères, tous deux eurosceptiques. Quant aux manifestants rassemblés à Trafalgar Square pour protester contre sa venue, eh bien, il ne les a tout simplement pas vus.
Il y avait des milliers de personnes dans les rues en train d'applaudir. Les gens agitaient des drapeaux américains. Puis j'ai entendu qu'il y avait des mouvements de protestation. J'ai dit, mais où sont-ils? Je ne vois rien. Ce matin, j'ai aperçu un petit rassemblement. Mais un très petit nombre de personnes qui avaient été placées là pour des raisons politiques. Tout ça, c'est des infos mensongères.
It was fake news. Et à propos de Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche qui a rejoint le camp des manifestants, Donald Trump commente, lapidaire, j'ai refusé de le rencontrer. C'est une personne négative.
Merci à vous Antoine Gignot. C'était il y a 30 ans la terrible répression du printemps de Pékin. Le 4 juin 1989, l'armée écrasait la rébellion étudiante. Aucun bilan officiel n'a jamais été communiqué. Mais le nombre de victimes se compte sans doute par milliers. Le sujet est toujours très tabou en Chine où les mesures de sécurité ont été renforcées, en particulier sur la place Tiananmen. Aucune commémoration n'est tolérée en Chine continentale. En revanche, une cérémonie est prévue à Hong Kong. Hong Kong qui bénéficie d'un statut particulier depuis son rattachement à la Chine en 1997. Cérémonie prévue également à Taïwan, la rebelle. Sur place, la correspondance de Florence de Changy.
Malgré l'orage qui a détrempé les terrains de sport du parc Victoria plus tôt dans la journée et la pluie qui menaçait toujours, les Hongkongais ont répondu en masse cette année à l'appel des organisateurs de la veillée annuelle pour le souvenir de Tiananmen. Parmi la foule qui s'est installée sur des nappes en plastique, des papiers journaux ou des tabourets pliants, Anna, 22 ans, elle a pour la seconde année bougie à la main. J'estime que c'est notre devoir de dire au monde qu'un tel événement, un événement aussi tragique a eu lieu. Et cela ne devrait pas être quelque chose qu'un pouvoir politique peut juste décider de changer. En fait, les gens se souviennent. Même discours pour le professeur de sciences politiques Joseph Cheng. Avant tout, nous voulons montrer que nous prenons les événements historiques au sérieux. Nous ne voulons pas laisser les autorités chinoises effacer l'histoire. Et si les Hongkongais tiennent ainsi à montrer qu'ils n'oublient pas le 4 juin 1989, c'est sans doute également pour faire bon usage de leur liberté d'expression et de rassemblement, des libertés totalement inaccessibles partout ailleurs en Chine et qu'ils sont à présent menacés, même à Hong Kong.
Reportage signé Florence de Changy. C'était il y a 2 ans, l'Arabie Saoudite rompait brusquement ses relations diplomatiques avec le Qatar et lui imposait un blocus économique, suivi par les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte. Riyad accuse le petit émirat gazier de soutenir des mouvements extrémistes, ce que l'intéressé dément, et de se rapprocher de l'Iran. Le blocus va jusqu'à l'interdiction de survol du territoire saoudien par la compagnie Qatar Airways. Depuis, Doha tient tête au royaume wahhabite à travers un nationalisme qui se décline aussi sur le plan économique. Reportage de notre envoyé spécial au Qatar, Valérie Crovin.
Sur une immense plateforme rotative, une cinquantaine de vaches attendent la fin de la traite. Nous sommes en plein désert qatari, dans une ferme qui abrite 18 000 vaches. Certaines sont arrivées par avion des États-Unis. Originaire du Michigan, Adam surveille ses bêtes qui sont continuellement aspergées d'eau et ventilées, explique-t-il. Ici, les températures peuvent atteindre 50 degrés. Aujourd'hui, Baladna est devenu un empire laitier. Kamel Abdallah en est le PDG.
Le blocus était très dur. Une semaine avant, nous recevions de l'Arabie Saoudite 90% de nos besoins en produits laitiers, les frais compris. La société a alors décidé de réagir rapidement. Aujourd'hui, nous avons 6 salles de traite très perfectionnées. Nous avons maintenant 3 usines et plus de 1500 employés. Et tout cela en moins de 2 ans.
La ferme Baladna est une fierté nationale. Elle symbolise la résistance du Qatar au blocus imposé il y a 2 ans par Riyad. Rachid Al-Mansouri dirige la bourse de Doha.
Depuis le blocus, beaucoup de choses ont changé. Notre croissance économique, notre indépendance, nos industries locales et manufacturières, nos fermes. Donc le blocus, d'une certaine manière, n'aura pas été mauvais. C'est bien pour nous de nous assurer que nous sommes autosuffisants.
Pour briser le blocus, il a fallu trouver d'autres filières de ravitaillement. Le Qatar partageait sa seule frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite, mais la route est désormais coupée. Isolés, les Qataris se sont donc tournés vers d'autres pays comme la Turquie ou l'Iran, l'ennemi juré du voisin saoudien. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari justifie ce rapprochement avec Téhéran.
En 2017, c'est l'Iran qui a ouvert son espace aérien et maritime, et c'est malheureusement notre grand voisin, l'Arabie Saoudite, qui a décidé de bloquer l'entrée de 90% de la nourriture et des médicaments dans le pays. Pour nous, la relation avec l'Iran, et particulièrement ces derniers temps, c'est une relation de nécessité plutôt que de choix. C'est la réalité de la situation.
Dans ce stade de foot de Doha, aux trois quarts vides, se joue un match de la Ligue des champions asiatiques. Le Qatar, futur pays organisateur de la Coupe du Monde, reçoit ce jour-là l'Arabie Saoudite. Mais les supporters saoudiens n'ont pas pu faire le déplacement. Le blocus sépare aussi les familles, regrette Ranim. Cette jeune Saoudienne qui vit au Qatar assiste discrètement au match.
Nous sommes touchés parce que ma famille ne peut pas venir. Je vais leur rendre visite et ça prend un peu plus de temps. Je dois passer par le Koweït. Nous espérons que les choses iront mieux.
La visite la semaine dernière du premier ministre qatari lors d'un sommet à la Mecque a été remarquée. C'est en effet la première fois qu'un responsable de haut niveau du Qatar se rendait dans le royaume saoudien depuis 2017.
Reportage signé Valérie Crova. La Cour de cassation valide l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le frère de l'ancien président déchu est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 d'un journaliste. Cette décision nécessite toutefois un décret du gouvernement français pour être effective. Les cheminots dans la rue cet après-midi, ils étaient plusieurs milliers à manifester à Paris contre la réforme ferroviaire. Ils montrent également du doigt une dégradation du climat social dans l'entreprise. Les syndicats de cheminots cherchent à peser sur les négociations internes à la SNCF où un nouveau cadre social va remplacer le statut. Ils souhaitent également mettre la pression sur le gouvernement qui doit encore compléter la réforme avec des ordonnances et des décrets. Clément Comte a suivi la manifestation qui a débuté vers 14h place d'Italie.
Le climat général se détériore, voilà ce que disent les manifestants ici. Dans le viseur, les changements en cours ou à venir à la SNCF. Clément travaille à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine.
Il y a beaucoup de cheminots qui sont à bout. Les diverses organisations, elles créent de la souffrance au travail. Et elles sont d'autant plus violentes aujourd'hui, après la réforme en fait. Et c'est là que ça devient assez inquiétant, parce que le climat dans l'entreprise, il est anxiogène. C'est catastrophique, quoi.
Un climat anxiogène ressenti aussi par Bruno, cheminot au Havre.
Moi je sais que quand j'arrive au boulot, j'arrive, j'ai un triage, il n'y a que des herbes, quoi. Donc plein de voies et plein d'herbes. Et moi, quand j'arrive au boulot, je vois ça. Tout de suite, je suis trop bien, quoi. On a vraiment peur et on voit ce qui se passe dans les autres boîtes. À un moment, ça va péter. Et on le sait, il y a des suicides comme il y a eu à France Télécom et c'est pas normal, quoi.
Une vingtaine de suicides depuis le début de l'année en lien avec la restructuration. C'est ce que dit le syndicat Sudrail. Des suppressions de postes difficiles à accepter.
Le moral pourrait être meilleur.
Géraldine, par exemple, travaillait à la souterraine dans la Creuse.
On m'a supprimé mon poste il y a 3 jours, hein, jeudi 30 mai. Pour le week-end de l'Ascension, on vient de supprimer ma gare, on vient de l'automatiser, on vient de la télécommander de Saint-Sulpice-Laurière. Donc voilà, je le vis très très mal.
Les syndicats sont donc prêts à se battre. Les représentants ont d'ailleurs été très clairs tout à l'heure. Cette manifestation, c'est le dernier avertissement.
Le rapport annuel des associations qui sont présentes aux côtés des migrants dans les centres de rétention l'an passé, ce sont 45 000 personnes qui ont été placées dans un de ces centres en France. Le chiffre est pratiquement stable, mais les associations dénoncent une forte dégradation du respect des droits des personnes arrêtées. D'ailleurs, les juges en France métropolitaine libèrent environ 40% des hommes, des femmes et des enfants qui sont envoyés par les préfectures dans ces CRA, ces centres de rétention administrative. Le contexte s'est encore tendu récemment puisque la durée de rétention est passée de 45 jours à 90 jours depuis cette année. Tara Schlegel.
L'Ordre de Malte dénonce trop d'enfants placés avec leur famille en rétention, 208 l'an dernier. Laetitia Ndiaye rappelle les effets délétères dès les premières heures.
Ça reste visuellement et architecturalement parlant quelque chose de très similaire à une prison. Il y a des barbelés, il y a des policiers, il y a des personnes qui peuvent commettre des actes d'autodétresse en face des enfants. Ça nous est arrivé puisque les jeux prévus pour les enfants sont dans une cour extérieure qui est accessible, je parle du centre de rétention, mais qui sont accessibles à la vue de tous.
Or, une douzaine de tout-petits sont restés plus d'une semaine enfermée dans ces lieux. Il y a aussi ces mineurs isolés, souligne Céline Guyot de l'ASFAM.
On s'est retrouvé avec un jeune roumain de 13 ans placé en rétention. Donc il a été libéré au bout de 4 jours sur la présentation d'un extrait d'acte de naissance, mais ça veut dire qu'on a quand même dû solliciter plusieurs fois la préfecture pour ses libérations. On a beaucoup de mineurs qui sont pris en charge à l'extérieur par l'ASE, donc reconnus mineurs par les autorités françaises, et qui lors d'une interpellation vont être estimés majeurs, et la préfecture elle se base sur les procès-verbaux qui sont faits lors de l'interpellation. La charge de la preuve, elle devient terrible à ce moment-là.
Pourtant, 60% de ces jeunes sont ensuite relâchés. C'est aussi le cas de certains qui ne devraient jamais se trouver là, poursuit Céline Guyot.
Au centre de rétention de Vincennes, on a eu une personne unijambiste qui ne pouvait pas aller aux toilettes, qui ne peut pas se déplacer correctement dans le centre de rétention et qui ne peut faire aucun acte de la vie quotidienne dans le centre de rétention sans avoir une escorte. Voilà. Donc non, la rétention, elle n'est pas possible pour des personnes porteurs de ce handicap.
On voit aussi beaucoup de malades psychiatriques actuellement en rétention. Et tous peuvent désormais rester jusqu'à 3 mois. La durée vient de doubler. Ce qui, affirme David Roy de la CIMAD, crée beaucoup de tensions.
Avec des émeutes, avec des gens qui mettent le feu à des parties de centres de rétention, des gens qui se mettent en grève de la faim, qui publient des revendications, et puis qui nous expriment individuellement aussi au quotidien leur désespoir, l'angoisse. C'est un désastre sur le plan humain.
Les associations estiment qu'un palier a été franchi cette année.
2018, année record pour l'agriculture biologique en France. Cela fait maintenant plusieurs années que les chiffres de la bio ne cessent d'augmenter. Et 2018 ne fait pas exception. Désormais, 7,5% de la surface agricole française est couverte par l'agriculture biologique. Cela concerne près de 10% des agriculteurs français. Ça, c'est pour la production, mais la distribution, la transformation et bien sûr la consommation ne sont pas en reste. Bonsoir Anne Lorchois.
Bonsoir Antoine.
Les entreprises de transformation des produits bio sont en augmentation de 12% et surtout le marché grimpe à 9 milliards 100 millions d'euros et en plus, les consommateurs préfèrent de plus en plus acheter bio et local.
Oui, on peut dire que l'agriculture biologique a réussi sa sortie de niche, en quelque sorte. L'inquiétude, c'était en effet que la production française ne soit pas en mesure de répondre à la demande croissante. Or, aujourd'hui, les conversions en bio des exploitations se font, y compris sur des secteurs qui n'étaient que très peu concernés, les céréales notamment. Et du coup, les importations de bio stagnent. Près de 70% des produits bio consommés sont produits en France. Florent Gull, directeur de l'agence bio.
Il y a deux phénomènes qui expliquent le fait qu'on a un taux d'importation qui n'a pas bougé en un an malgré une croissance très forte du marché. C'est d'une part une demande des Français effectivement de consommer des produits bio locaux, à tout le moins des produits bio français. Et d'autre part, c'est la dynamique très très forte du monde agricole français.
Une production dynamique donc pour répondre à une demande dynamique en vin, bière, mais aussi en œufs, laitage, viande, boulangerie, légumes. Nous mangeons presque entièrement bio et français. En fruits, pas encore. Et sur le porc, la France peut faire beaucoup mieux, mais la tendance est bonne. Il faut dire aussi que les agriculteurs voient enfin la bio d'un nouvel œil. Philippe Henry, agriculteur et président de l'agence bio.
Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on m'a regardé un peu en rigolant. Hein. On n'en est plus du tout là. Les gens ne sont plus là. Moi, j'entends des responsables FNSEA me poser en off, hein, comme ça, mais en discussion, hein, à dire « mais oh, la bio, quand même, c'est un truc ». Pour moi, c'est vraiment une réussite parce que c'est des gens qui ne viennent pas, a priori, d'un milieu écolo, machin. Ils ont compris qu'ils étaient au bout d'un cycle. L'agriculture, aujourd'hui, elle est au bout d'un cycle. Tout le monde le comprend. L'agriculture, dans son ensemble, a compris qu'on changeait de logiciel.
Et la grande distribution aussi. D'ailleurs, pour la première année, ses ventes de produits bio ont augmenté plus vite que celles en magasins spécialisés. Elle enregistre, cette grande distribution, quasiment la moitié des achats des ménages dans ce secteur.
Merci Anne Lorchouin. On ne verra pas le logo de Total sur les sites olympiques en 2024. Le groupe pétrolier français renonce à être l'un des sponsors des Jeux olympiques qui doivent se tenir à Paris dans 5 ans. Le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, aurait pris cette décision la semaine dernière à la suite d'une rencontre avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui souhaite des Jeux olympiques neutres en carbone. Véronique Rebérotte, bonsoir.
C'est dur, bonsoir.
Un sponsor nommé Total, dont le fonds de commerce est les énergies fossiles n'étaient pas vraiment la bienvenue pour la mairie de Paris.
Non, totalement incompatible, DGE exemplaire sur le plan environnemental avec un sponsor géant mondial du pétrole. Anne Hidalgo, dans un courrier daté de fin mars, avait, sans le nommer, fait part de ses réticences au patron du comité olympique de voir la multinationale française sponsoriser les Jeux olympiques de Paris en 2024, date à laquelle, par ailleurs, la maire de Paris a prévu d'interdire la circulation des véhicules diesel dans la capitale. Il y a encore quelques jours, Total et le comité d'organisation des JO était en discussion à l'initiative du comité qui espérait compter sur une enveloppe de plusieurs centaines milliers d'euros de la part de Total. Mercredi dernier, lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Total, le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, a assuré avoir eu des échanges très constructifs avec le comité des JO tout en ayant un doute quand même sur la finalisation de ce partenariat du fait, je cite, des doutes de la mairie de Paris. Doute confirmé quelques heures plus tard. Lors d'un entretien avec Anne Hidalgo, le PDG de Total n'a pas réussi à convaincre la maire de Paris que Total était à la fois une entreprise éthique et engagée dans la vie des énergies renouvelables. À l'issue de cette rencontre, le président de Total, qui avait dit ne pas vouloir, je cite, être un sponsor cloué au pilori, aura donc décidé de jeter l'éponge. Au comité d'organisation des JO de partir en charge maintenant de sponsors aussi généreux qu'aurait pu l'être Total et surtout plus climato-compatible.
Merci et on salue Véronique Pellerin. Jeudi, la France va commémorer le 75e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie en présence des présidents américains et français ainsi que des 500 vétérans dont bon nombre sont centenaires. Le 6 juin 1944, 156 000 soldats débarquent en France au cours de l'opération Overlord menée par les Britanniques avec les Américains, les Canadiens et les Français. Un débarquement qui aura été soigneusement préparé pendant de longs mois dans le plus grand secret. Une des clés de son succès a été de tromper l'ennemi dans la guerre de désinformation dénommée Fortitude contre les Allemands. Les Alliés n'ont pas manqué d'imagination, Nathalie Hernandez.
Un fox et un tox ont toujours fait partie de l'art de la guerre. Pour le débarquement en Normandie, elles ont été déterminantes. D'abord, militairement, nous raconte Yvonique de Noël, auteur du livre « Mémoire d'espions en guerre » aux éditions du Nouveau Monde. L'objectif est de persuader les Allemands que le débarquement aura bien lieu dans le Pas-de-Calais.
On invente tout simplement un groupe fantôme dans le sud-est de l'Angleterre. Alors on ne fait pas les choses à moitié. On va installer des milliers de tentes, des tanks. Ce sont des tanks gonflables. Et on crée une énorme activité d'émissions radio. Rien que dans le mois précédant le débarquement, 18 000 messages radio sont écoutés par les Allemands qui ne peuvent pas imaginer que ces messages ne sont pas réels.
Ensuite, s'ajoutent des agents doubles.
En particulier, on a un agent star, Juan Pujol Garcia, qui a le nom de code Arabelle du côté allemand et Garbo du côté anglais. Et Juan Pujol Garcia va transmettre dans la nuit du 5 au 6 juin l'annonce d'un débarquement en Normandie, mais tout en précisant que ce débarquement est un leurre. 48 heures après le débarquement, cette fois-ci, il annonce un débarquement imminent côté Pas-de-Calais. Et c'est jusqu'à la mi-juillet que les Allemands vont rester sur cette idée-là.
Enfin, Plus cynique, les Britanniques savent que plusieurs groupes de résistants français dans le Nord-Pas-de-Calais sont infiltrés par l'occupant. Des messages leur sont alors envoyés pour annoncer l'imminence du débarquement dans leur zone. Certains seront arrêtés. Ils parleront, livrant ainsi de fausses informations à l'ennemi.
Cet après-midi, temps lourd et orageux sur le centre, le nord, la région parisienne et les Pyrénées. De la pluie sur le Cotentin. Ailleurs, c'est le soleil qui domine. Il fait 14 degrés seulement à Brest, 22 à Paris, 29 à Clermont-Ferrand. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h avec Stanislas Bazac. Et vous aurez le plaisir de retrouver demain à 18h Aurélie Kiefer dans un tout nouveau studio.